et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Salut Audrey, comment tu vas?
Salut Darina, très bien, et toi?
Écoute, ça va, en pleine forme, la patate.
Bon, ben c'est cool. En tout cas, merci pour l'invitation. Tu sais que je suis ton podcast depuis le début, quand tu l'as lancé pendant le premier confinement. Donc, je suis ravie d'être là.
Ah, ça me fait chaud au cœur. Ouais, c'est vrai que c'est très, très chouette. Moi aussi, ça me fait hyper plaisir que tu viennes au micro de Amcamgram. Pour remettre un peu de contexte, donc toi Audrey, tu es Key Account Manager depuis un peu moins d'un an chez Germinal. Et alors, pour ceux qui n'ont pas en tête tout de suite l'image de l'émoticône tracteur, Germinal, ce sont des experts en fait de growth marketing qui vont réaliser des missions commando pour à la fois définir et booster les leviers de croissance de leurs clients. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis quelques mois, Germinal s'est donné comme mission de former et d'accompagner les futures générations de marketeurs et d'entrepreneurs sur le sujet de la croissance grâce à une plateforme qu'ils ont créée qui s'appelle l'Antichambre.
C'est parfait, c'est exactement ça, tu l'as pitché mieux que moi-même.
Pas mal. Je pense que j'ai un ticket chez Germinal, là, ça y est. Avant de commencer, Audrey, est-ce que tu peux me dire quel est ton plat préféré? C'est pour mes stats perso.
Alors, la question sûrement la plus difficile pour moi de la semaine, parce que je suis très, très, très gourmande, mais je dirais, c'est de la street food qu'on fait en Guadeloupe. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du Bokit, qui est un sandwich qui est frit dans l'huile et qui peut venir avec du poulet, de la morue complet. Mon préféré étant le Bokit à la morue que fait mon père.
Ah ouais, donc toi, tu peux en manger à la maison carrément.
Ah oui, je peux en manger à la maison et... Vraiment, ce sont mes préférés, j'en ai goûté partout. Vraiment, en Guadeloupe et ici, et le meilleur, c'est celui de papa.
Ah bah oui, forcément. Bon, alors, tu vas pas aimer ce que je vais dire, mais moi, j'en avais mangé en Martinique lorsque j'avais regardé le Tour des Yoles.
Mais le bokit, à la base, n'est pas martiniquais, donc tu n'as pas été à la source, en fait, du bokit. À la base, c'est vraiment les Guadeloupéens qui le font.
Alors, si c'est une invitation, je suis preneuse. Je veux bien venir goûter les origines du bokit en Guadeloupe lorsqu'on pourra de nouveau voyager.
Bah, quand tu veux l'année prochaine.
Carrément. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Audrey. À présent, je te laisse sortir de l'anonymat.
OK. Alors, moi, c'est Audrey. J'ai 35 ans. Je suis commerciale depuis une petite dizaine d'années maintenant. J'ai commencé par vendre de l'acier pour ArcelorMittal au Venezuela, donc en tant qu'account manager junior. Je suis rentrée à Paris où j'ai intégré une start-up qui vit dans un SaaS de recrutement en tant que sales, account executive. Je menais vraiment mon cycle de vente de A à Z. Suite à cette expérience-là, j'ai intégré une superbe boîte qui s'appelle Valtech, dans laquelle je suis restée un peu plus de 3 ans, qui était une agence de conseil dans le digital. Et puis, je m'étais toujours dit qu'un jour, je retournerais en Amérique latine. Donc là, je suis partie à mon compte pendant près de 3 ans au Mexique pour travailler sur du conseil en business développement pour des boîtes françaises qui voulaient s'implanter dans la région et puis des boîtes mexicaines là-bas. J'ai pas mal traité de sujets autour du business inclusif. C'est des sujets qui me tenaient à cœur. Comment tu crées des business models qui ne soient pas générateurs que de richesse, mais également de bien-être social. Puis, à un moment, j'ai décidé de rentrer à Paris. Et j'ai repris des fonctions de key account dans le digital, dans une boîte de conseil très technique qui s'appelle Xebia. Et j'ai enchaîné avec une agence de conseil dans le product management qui s'appelle Monsieur Guise, où j'étais la première et seule commerciale. Il y avait une vraie culture de l'apprentissage. Je me suis éclatée pendant 2 ans. Avant, du coup, de rencontrer Germinal.
Pouh ! Ah oui, d'accord. Bon,
alors... J'ai pu résumer 10 ans en quelques secondes. Hein.
Ça, j'allais dire que tu n'es pas né de la dernière pluie. OK, on a compris. Alors, secteur de l'industrie, secteur du digital, secteur du conseil, auto-entreprise. Waouh, c'est hyper, hyper vaste, effectivement. Et j'étais en train de regarder sur Google Maps pour être bien sûr, mais en fait, t'es maligne. C'était plus facile pour toi de revenir en Guadeloupe en termes de kilomètres depuis l'Amérique du Sud que depuis la France, non?
Eh ben, écoute, en termes de kilomètres, en effet, c'est juste à côté. Quand j'étais au Venezuela, à vol d'oiseau, t'es peut-être à 2 heures, mais c'est une galère sans nom. Tu dois passer par Miami ou Porto Rico. C'est une galère sans nom. En fait, c'est plus simple et moins cher de faire Paris-Pointe-à-Pitre que de faire Paris-Caracas.
Ah ouais, d'accord. Bon, bah.
Mais oui, à la base, je m'étais dit, ah, c'est cool, je vais pouvoir aller voir ma famille souvent. Et en fait, non.
C'est ça. Ok, bon, et bah écoute, très clair. J'ai hâte en tout cas de comprendre en fait comment tu fonctionnes, parce que j'ai l'impression que tu as été un peu touche à tout. Et qu'est-ce qui t'a amené chez Germinal? J'ai l'impression que tu voulais encore te lancer un nouveau challenge en rejoignant un ovni un petit peu.
C'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Et pour te dire, aujourd'hui, je sais que j'ai rejoint Germinal pour une série de raisons qui, après quelques mois, en fait, sont toujours les mêmes. La première, c'est le sujet du gross marketing qui m'intéressait. J'ai vendu pas mal de produits ou de services qui étaient très techniques et je voulais me rapprocher de sujets qui me parlaient à moi en tant que profil très commercial. Et pour moi, remonter vers les aspects marketing, c'était assez naturel. En plus, c'était sur des sujets qui sont un petit peu nouveaux, tu vois, des équipes qui sont jeunes, qui sont engagées, donc ça te tire un peu vers le haut, tu restes à la page. Ça, c'est vraiment pour moi la première raison. La deuxième raison, et qui est au final tout aussi importante, c'est, tu vois, l'ambition en fait qu'il y a derrière une boîte comme Germinal. Déjà, il y a une aventure entrepreneuriale, il y a tout qui est à créer. Et en effet, c'est encore un nouveau challenge pour moi. Et puis après, tu vois, en tant que boîte, on intervient quand même sur des sujets qui touchent à la croissance de clients. On est sur des trucs qui sont super stratégiques, tu vois. Et derrière ça, la boîte a pour ambition de révolutionner la manière dont on travaille en interne. Tu vois, nous, on est en full remote, donc on travaille en toute confiance, en toute transparence. Et ça, c'est cool, tu vois, tu changes la donne pour tes employés. Et puis après, y a chez Germinal, il y a tout le côté fun, décalé. Et à partir du moment où tu délivres tes performants, c'est cool, t'as la liberté, t'as l'indépendance et tout ça, quoi. Donc, j'ai adhéré avec la culture, avec le sujet et avec l'ambition de la boîte.
Ouais, et quand tu parles de métier, ça doit être tellement satisfaisant de pouvoir agir directement sur la croissance de tes clients. Enfin, tu vois le avant-après en un clin d'œil, quoi. Enfin,
ah ouais, mais c'est...
Je rentre pas tout de suite dans le
vif. Ouais, d'accord.
Tu vas nous en parler. Sinon, on va jamais rentrer dans l'interview. Alors, je m'en tiens à ma trame. Hein. Première question, du coup, est-ce que tu peux commencer par me décrire un peu la structure business chez Germinal?
Ok, alors la structure business chez Germinal, c'est une équipe revenue qui se décompose en fait en deux teams. Donc tu vas avoir la team marketing avec notre CMO, notre responsable communication et notre designer qui, parmi toutes les tâches en fait que peut avoir une structure marketing, se charge de toute la partie lead gen pour l'équipe commerciale et pour la plateforme d'antichambre dont tu parlais en introduction. Et puis après, tu vas avoir vraiment l'équipe sales, l'équipe commerciale, qui est au final une structure qui est une équipe qui est très jeune, puisque pendant les deux premières années de Germinal, le commercial, c'était Grégoire, c'est lui qui ramenait, enfin qui convertissait tout le business. Et l'équipe, elle est en train de se monter. Donc on est deux, en fait, avec Grégoire, ma collègue et puis moi.
Ah oui, d'accord. Donc, quand tu disais qu'il y avait tout à construire, effectivement, tu fais partie de l'équipe Early Stage. Là.
Exactement, exactement.
Top. Bon, écoute, sans transition, je veux bien que tu me racontes concrètement en quoi consiste le poste de Key Account Manager chez Germinal.
Alors, je suis rentrée, c'est drôle parce qu'il y a, en effet, il y a énormément de choses à faire. Moi, je suis rentrée et ma feuille de route, c'était de prendre en charge la relation avec les clients grands comptes, puisque c'est des clients que j'ai adressés énormément en fait dans le passé, lors de mes précédentes, dans le cadre de mes précédentes boîtes. Et au final, aujourd'hui, mon poste et mon périmètre se sont élargis. Donc j'ai la casquette commerciale et également un peu conseil, tu vois, auprès de mes clients. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir diagnostiquer où ils en sont, leurs objectifs, pour savoir, entre tout ce qu'on peut proposer à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est meilleur pour eux. Il va y avoir des sujets, et je vais avoir cette casquette de structuration, donc comment on améliore les outils et les process et les propositions au sein de l'équipe commerciale, comment on collabore mieux également avec le reste des équipes et avec nos clients. Et puis après, tu vas avoir tout le pan offre. Aujourd'hui, en effet, il y a du service et il y a ce produit à travers la partie antichambre. Et l'idée, c'est de pouvoir nous remonter un maximum d'informations aux équipes en interne pour voir comment on fait évoluer tout ça et comment on est de plus en plus pertinent par rapport aux besoins de nos clients, par rapport aux besoins du marché. Et la dernière casquette que je dirais que j'ai, c'est tout le pan partenariat. Aujourd'hui, ça nous intéresse de pouvoir identifier des synergies avec des agences, avec d'autres structures pour adresser au mieux aux clients. Donc, je dirais une quadruple casquette autour du commerce, conseil, structuration de l'équipe commerciale, développement des offres et puis développement des partenariats.
Ok, donc là, je vois bien les recrutements chez Germinal. Only machine de guerre. Tracteur only, quoi. Ok, d'accord. je voulais savoir sur la partie diagnostic. Si tu dois diagnostiquer et ensuite faire le choix entre les outils les plus pertinents pour cette entreprise-là en fonction de ses enjeux, ça veut dire que potentiellement, tu dois connaître d'ores et déjà un catalogue d'outils et un catalogue de méthodes aussi. Enfin, comment est-ce que tu te formes sur tout ça?
Alors, quand je suis arrivée chez Germinal, bien évidemment, j'avais déjà suivi des formations sur le gross marketing, mais j'ai demandé à monter en compétences sur le sujet. Donc, on m'a ouvert les accès à la plateforme pour que je puisse avoir accès à toutes les formations très, très, très opérationnelles. Et la première semaine, j'avais demandé à faire très peu de sales et à pouvoir m'entraîner sur comment tu crées une landing page, comment tu crées une ads, etc. Donc, j'ai mis un petit peu les mains dans le cambouis. Et puis après, tu es accompagné par l'équipe, l'équipe qui a l'habitude d'accompagner les clients, qui te forme et puis qui t'explique également ce que tu dois, l'information que tu dois aller chercher auprès de tes clients pour être pertinent, pour faire un pré-diagnostic. Et en fait, moi, mon rôle, quand je dis que c'est vraiment de faire un diagnostic sur la situation de mon client pour l'accompagner au mieux, c'est surtout d'identifier l'offre chez Germinal qui serait la meilleure. L'idée, c'est de pouvoir diagnostiquer sa croissance d'un point de vue très business et ensuite de pouvoir passer le relais à l'équipe opérationnelle qui va, elle, diagnostiquer d'un point de vue beaucoup plus opérationnel, les comptes en termes d'acquisition, etc. Mais dans tous les cas, c'est passé par de la formation from scratch au début et puis après du terrain, quoi.
Et que je comprenne bien, donc toi, dans ton périmètre de CAM, tu fais de la prospection aussi et du closing, en plus de la fidélisation.
Ah, alors ça, c'est une très, très bonne question.
Parce que vous savez envoyer des leads aux clients, mais qui vous envoie vos propres leads?
Alors, justement, alors c'est une très bonne question. Alors, pour te répondre dans l'ordre, moi, je suis arrivée chez Germinal, comme je te disais, en tant que CAM. Donc pour gérer la relation avec nos clients grands comptes. Et on m'a dit tout de suite d'emblée, tu verras chez Germinal, il n'y a pas de prospection.
Ah, c'est bon ça.
Parce qu'en fait, tu as l'équipe marketing qui fait un gros travail de lead gen et tu as Grégoire qui mène un travail tellement important sur les réseaux sociaux en termes d'influence qu'on a des leads qui nous arrivent en permanence en fait et on n'a pas à faire de prospection. Après, le titre de CAM... Je te dis, c'est le titre qui m'a été donné au début, mais au final, on est sur un périmètre beaucoup plus large. On fait la qualification du client, parfois on disqualifie. Je dirais que c'est du sales, business development et account manager, tu vois.
Ouais, tout à fait. Et justement, pendant que tu me disais ça, je reprenais le post de Grégoire, d'ailleurs, qu'il a posté tout à l'heure, où il disait que, par exemple, grâce à son activité sur LinkedIn, ça générait, par exemple, 48K, ne serait-ce que pour l'antichambre, quoi.
C'est exactement énorme. Ça. Donc, nous, si tu veux, quand on parle de lead gen à nos clients et de croissance, ces tactiques-là, en fait, on se les applique également en interne, on les utilise.
Ouais, bien sûr, heureusement. Ok, ouais, bon, trop, trop bien. Et alors, donc, tu n'as pas de prospection à proprement parler. Donc, ton travail, ça va être vraiment de transformer les leads, même si je pense qu'ils sont déjà ultra qualifiés lorsqu'ils arrivent. Et ensuite, de diagnostiquer la meilleure formule Germinal pour eux.
Exactement. Se dire, est-ce que c'est de la mission commando? Est-ce que c'est de l'antichambre? Est-ce que c'est un modèle hybride qui va fusionner les deux? Voilà.
Et alors, dans tout ça, quels sont tes KPI?
Ok, mes KPI. Alors, chaque équipe chez Germinal fonctionne par OKR trimestriel. Donc, au sein de l'équipe sales, nous, nos OKR, donc nos objectifs qui résultent, on va avoir deux objectifs qui sont corrélés aux deux types d'offres qu'on va vendre. Donc, les missions commando, où là, on va se dire, l'objectif pour ce trimestre-là, c'est de continuer à assurer un flux de missions commando de qualité pour l'équipe opération. Et du coup, on va avoir un chiffre mensuel de missions à démarrer. Et l'idée, c'est de se dire qu'on va également tracer la qualité de ces missions-là et on va fournir à l'équipe opération derrière ça un NPS à remplir. On doit avoir au moins 8 sur 10. Non, sous 8 sur 10, c'est pas bon. Et en fait, ils notent les missions a priori quand la mission commence. Et l'idée, c'est à la fin du trimestre de relancer ce NPS qui puisse renoter les missions a posteriori quand les missions sont finies, pour affiner ce NPS et pour affiner en fait du coup la notation sur la qualité des missions qu'on leur remonte. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment sur la partie mission commando et sur la partie antichambre, donc offre qu'on développe depuis ces quelques derniers mois. L'idée, c'est d'assurer un MRR, donc un chiffre d'affaires constant qui va aller en augmentant et qui va prendre de plus en plus d'importance. Et après, côté sales, de manière très individuelle, ben, tu as des objectifs de chiffre d'affaires et de marge.
Bon, j'ai hâte d'en venir aux clients. Alors, est-ce que tu peux me parler plus précisément de tes clients? Alors, ils viennent avec quel type de problème?
OK, alors nous, nos clients, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va adresser toute taille de clientèle, j'ai envie de te dire de la start-up en passant par la PME, l'ETI ou le grand compte, surtout sur la partie mission commando. Après, sur l'antichambre, on a même des étudiants, des gens qui sont en reconversion, des freelances. Dans tous les cas, ces personnes-là, elles partagent la même problématique, c'est la problématique de la croissance, d'obtenir un maximum de clients et à des coûts les plus intéressants possibles. Et eux, ils vont faire appel à nous dans deux cas de figure. En fait, tu vas avoir les boîtes qui vont être en pré-market fit. Donc, tu vas avoir un premier scénario où la boîte, elle a déjà son produit, elle a déjà son service, et elle veut pouvoir tester son offre sur le marché. Tu vois, la challenger, voir si elle peut avoir de l'attraction. Typiquement, il y a beaucoup de startups qui viennent nous voir. Tu sais, même parfois, avant même d'aller voir des fonds d'investissement, avant d'aller faire des levées, tu vois. Donc, on a accès en plus à de l'information super privilégiée. Et l'idée, c'est de se dire, on veut tester notre offre, nos argumentaires de vente, nos cibles, etc. Et on veut aller voir les fonds en leur disant, voilà, nous, on fait de l'attraction. Regardez, on a les chiffres. Pour 1 € investi, on a tant. OK? Et après, tu vas avoir un deuxième scénario en pré-market fit de plutôt des grosses boîtes, des directions marketing, innovation qui vont venir nous voir et qui vont dire, nous, on veut tester les offres qu'on pourrait développer autour d'un concept. Donc, par exemple, je ne sais pas, une boîte qui veut lancer une offre autour des jeunes mamans ou de la maternité. Et nous, on va créer des landing pages, on va créer des campagnes de pub pour une offre qui n'existe pas. L'idée, c'est de voir où ça mord et de dire à notre client, voilà où ça mord, donc voilà comment tu dois développer ton offre. Ça, c'est vraiment premier cas de figure. Et après, tu as le post-market fit. Et ça, c'est des boîtes, en fait, qui ont déjà lancé leurs offres, qui ont déjà lancé leurs produits, leurs services, qui ont fait pas ou peu d'acquisitions et qui veulent un peu se challenger et aller chercher de la croissance, booster leur croissance. Et typiquement, des directions commerciales qui vont dire, moi, je veux appuyer l'activité de mes commerciaux et leur obtenir des leads. Donc, nous, on va opérer dans ce sens-là. Et des boîtes qui veulent augmenter leurs ventes sur le e-commerce. Ça, ce sont les problématiques pour lesquelles on va nous solliciter dans la plupart des cas. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que sur la partie mission commando, c'est nous qui allons faire. Et après, tu vas avoir la population, comme je disais, d'entrepreneurs, de freelance, d'étudiants, en reconversion, et aussi notre cible historique, direction marketing, innovation, commerciale et tout, qui vont vouloir, eux, prendre le sujet eux-mêmes, être indépendants, et qui, avec les mêmes problématiques, et qui vont vouloir passer du coup par l'antichambre pour adresser ces mêmes problématiques-là.
Ouais, c'est soit on sous-traite Germinal pour faire le taf, ou soit on sous-traite Germinal pour nous apprendre à le faire nous-mêmes.
Exactement, exactement. Et après, tu peux avoir des modèles hybrides où on fait en même temps et après on te forme, etc.
Mais quand tu vois, toi, en tant que CAM, un NPS qui revient avec 9 ou 10, t'as pas limite envie d'investir dans
Ah
la
non,
boîte?
mais clairement, moi je vois des boîtes qui avant, je te dis, d'aller voir les investisseurs, viennent nous voir avec des business models, des offres. Je me dis, je vais les suivre, je ne vais pas les lâcher, je crois en eux et je leur dis et je garde un œil dessus. Et au moment où Germinal exploserait, qu'on aura tout plein d'argent, j'investirai dans ces boîtes-là.
C'est ça, ouais, tu les gardes dans un coin de ta tête, ouais,
Ouais,
clairement.
clairement.
Et comment tu gères la relation avec tes clients? Est-ce que tu les rencontres avant que le contrat soit signé, enfin en mode prospect et tu signes direct ou enfin après est-ce que vous avez des touchpoints? Parce que effectivement tu parlais de deux modèles, un qui est un modèle qui va fonctionner en mission commando, donc là j'imagine c'est plus du one shot, alors que l'antichambre tu dois leur demander ce qu'ils en ont retenu, enfin comment ça se passe en termes de touchpoints.
Alors, c'est intéressant cette question-là, parce que c'est un vrai sujet pour le coup. Alors, toi, tout d'abord, historiquement, j'ai été habituée à beaucoup rencontrer, moi, mes clients en physique, aller en rendez-vous, etc. Et en fait, je suis arrivée chez Germinal à la sortie du premier confinement. On est tous en full remote. Et aujourd'hui, je traite 100% de mes clients de la relation en remote. Puis la plupart des gens n'ont pas pu revenir dans leurs entreprises, enfin physiquement. Donc en fait, aujourd'hui, en tout cas sur la partie mission commando, tout se fait en remote. Okay? Après, bien évidemment, moi, quand le client remplit une demande d'information, je les ai dans le cadre d'un premier échange téléphonique ou en visio. On fait le point, je leur envoie une proposition commerciale. On en discute, on négocie. Potentiellement, je fais monter l'équipe à bord quand il y a besoin de plus d'informations techniques. Et en général, après, quand le client signe, je confie le client à l'équipe opérationnelle qui va réaliser la mission commando pour lui. Et puis après, on se revoit plutôt à la fin de la mission. Et moi, après, pendant la mission, je m'assure aussi que tout se passe bien. Je fais l'intermédiaire s'il y a des soucis, etc. Après, l'idée, c'est de pas lâcher non plus complètement la main du client. Et c'est aussi en fait l'intérêt et une des raisons pour lesquelles on a développé l'antichambre, c'est de se dire que on peut continuer à vous accompagner d'une manière différente via la plateforme où là, vous avez accès directement en fait aux experts de Germinal. Donc en fait, tu as quand même une intervention humaine quand tu as eu de la mission commando, c'est pas forcément du one shot. Et puis après, c'est vrai que sur la partie antichambre, on est un petit peu moins présent, nous, en tant que sales, parce que l'idée, c'est que les gens soient autonomes. Donc nous, on va les conseiller sur la meilleure offre sur la plateforme. Et puis encore une fois, comme l'offre est un peu nouvelle, on va les appeler de temps en temps pour voir comment ça se passe et pour voir comment on pourrait améliorer la plateforme et les options d'accompagnement, tu vois, on est vachement à l'écoute. Mais c'est surtout, en effet, c'est surtout des touchpoints téléphoniques, du mail, un peu de visio, quoi, à l'heure actuelle, et surtout au vu du contexte actuel. Après, moi, il y a quelque chose que je fais systématiquement, c'est que j'ajoute mes prospects et mes clients sur LinkedIn, parce qu'on propose pas mal de choses, donc ça leur permet de voir comment on avance, et ça me permet de rentrer dans un rapport un petit peu plus étroit, un peu plus proche avec eux et sortir du mail ou du téléphone classique.
Alors, maintenant, on va passer au retour d'expérience, ma partie préférée. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter une anecdote gratinée?
Ah là là, ah là là, on est entre nous, il n'y a personne qui écoute, hein, Darina.
Non, il n'y a personne, t'inquiète.
Alors, je crois que ça s'est passé à l'époque où j'étais chez Valtech, il y a quelques années de ça. J'avais un client grand compte dans le monde de la banque, donc on est dans un monde très institutionnel. Comme je te dis, moi, j'ai l'habitude de faire mes rendez-vous en physique. J'aime bien bien m'habiller quand je vais voir mes clients. Et puis j'essaie d'être assez propre sur moi et quand je vais dans ces mondes un peu institutionnels. Donc j'arrive pour voir une personne que je n'ai jamais rencontrée chez un client qui fait partie de mon portefeuille. Je m'annonce à l'accueil, j'ai mis cette superbe jupe crayon, tu sais, qui descend en dessous du genou, qui est un peu fendue derrière et tout.
T'inquiète, j'ai la même.
Voilà, moi, écoute, j'en étais très fière, tu vois. Et j'arrive et je m'annonce. Je m'assois, tu sais, dans ces grands fauteuils bien moelleux. T'as l'impression que tu pourrais t'y noyer tellement ils sont profonds et t'endormir. Et puis, mon contact arrive et je suis au fond du fauteuil. Donc, je pense que je fais un très gros effort pour me lever. Je me lève et là, ma jupe se fend littéralement en deux derrière.
Ah!
Et là, comment te dire que la lueur de confiance qui devait briller dans mes yeux quand je suis rentrée dans le bâtiment, c'est complètement évanoui quand je me rends compte de ça. Et là, tu peux pas ne pas en parler, faire semblant. Donc, il arrive, enchanté, ah bah enchanté, oh je crois que j'ai eu un petit accident, etc. Bah, du coup, t'arrives à l'ascenseur et puis dis, ah bah après vous, non, exceptionnellement, ça sera après vous. En fait, ce qui est drôle, c'est que après, en fait, t'es grave en confiance, tu vois. Enfin, c'est bon, il t'est arrivé ça devant ce client-là. Le meilleur icebreaker possible, quoi.
C'est clair. Bon, bah, enfin, félicitations en tout cas d'avoir surmonté ce moment gênant. En parlant de situations compliquées, est-ce que tu en as une en tête plutôt récurrente dans le métier d'un CAM?
Alors, une situation compliquée récurrente. J'ai beaucoup vendu, et je parlais plutôt de mon expérience, et je ne sais pas si elle s'applique à tous les CAM de tous les secteurs, mais tu vois, j'ai vendu pas mal de prestations techniques, prestations de profil plutôt ingénieur, dans l'informatique, etc. Et moi, une de mes grosses difficultés, une de mes grosses frustrations en tant que CAM, ça a été pendant très longtemps de ne pas maîtriser sur le bout des doigts, en fait, l'expertise que je vendais, tu vois.
Ouais.
Et ça, je sais que c'est une frustration que partagent énormément de CAM, d'account manager dans le monde du service informatique, c'est que tu peux pas faire ta vente, en fait, de manière complètement autonome. Et tu vois, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis sur un sujet... même si je maîtrise, c'est pas moi qui vais créer les landing pages, qui vais créer les ads, etc., qui m'est beaucoup plus accessible. Voilà. Et aujourd'hui, clairement, ton client, il veut pas être face qu'un commercial, il veut être face à un expert, il veut qu'un expert s'occupe de lui. Et toi, quand t'as pas ce vernis-là ou quand c'est trop léger, ben, ça, c'est une vraie difficulté, tu vois. Donc, tu montes en compétences, en te formant, en échangeant avec tes collègues, etc. Mais voilà, pour moi, ça a été ma vraie frustration. De manière très personnelle en tant que CAM.
Ah, mais je pense que c'est plus que personnel et que ça touche beaucoup de monde. Et j'en parle un peu dans le débat comment faire pour ne pas tomber dans du support en tant qu'account manager et de se dire que c'est important de montrer aux clients qu'on sait que le terrain existe. Et moi, demain, je suis client, mais clairement, je te challenge à mort sur, sur les compétences techniques parce que sinon, ouais, comme tu dis, vendeur de tapis, en fait, ça ne m'intéresse pas.
Non, et en plus, enfin, on vend de l'expertise et potentiellement, en fait, tu es face à un client qui en sait plus que toi, tu vois. Donc, tu as intérêt à step up, quoi, à te mettre au niveau. Mais c'est compliqué, tu vois. Les mecs n'ont pas fait 5 ans d'études pour rien non plus. Donc,
ouais, complètement. Mais hyper intéressant, en tout cas, ouais, ce que tu dis. Et si, justement, on devrait traduire ça en conseil, qu'est-ce que tu préconiserais?
Alors, moi, très clairement, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, hein, mais je dirais, en tant que commercial, ne vends pas tout. Vends un sujet qui te passionne, un sujet qui te challenge intellectuellement, un sujet sur lequel tu vas lire le week-end, en dehors même de tes heures de travail. Parce qu'encore une fois, de plus en plus, en fait, le client veut être face à une personne qui est expert, à un commercial plutôt conseillé. Et en plus, clairement, si tu vends des trucs qui ne sont pas très techniques, très complexes, tes seules compétences de commercial suffiront. Si tu es sur de la vente beaucoup plus complexe, beaucoup plus technique, ça ne suffira pas. Et ta connaissance te permettra d'être légitime et, auprès de ton client et d'être un vrai interlocuteur de confiance. Et en plus, ça te donnera le feu sacré, tu vois, au moment où... tes compétences commerciales, en fait, te lâcheront. Donc, pour moi, c'est ne vends pas tout, vends vraiment un truc qui te fait vibrer.
Et pour compléter ce que tu dis, on a une aubaine aujourd'hui, entre guillemets, avec la crise, parce que le métier le plus recherché, ou limite le seul métier sur lequel les entreprises vont recruter aujourd'hui, c'est les métiers commerciaux. Donc, en fait, il y a une diversité de sujets. Tu as, en tant que commercial, alors au sens large, le luxe de choisir le secteur dans lequel tu veux aller.
Non, mais complètement. Et puis en plus, c'est des métiers qui sont tellement larges. Enfin, tu vois, aujourd'hui, on parle d'account management, mais tu as les rôles de SDR, d'account executive. Enfin, ça dépend des secteurs. Les gens ont le choix, en fait. Donc, connais-toi bien et vends ce qui va te faire kiffer et sur des sujets sur lesquels tu seras bon, tu vois. Si t'es une personne qui n'arrive pas à aller dans le détail, qui n'aime pas la technique, qui n'aime pas les trucs complexes, ben, concentre-toi sur des trucs un petit peu plus accessibles, où tes compétences commerciales seront bien plus mises en valeur, etc. Enfin, mais oui, il y a le choix aujourd'hui, et en effet, pendant les crises, c'est toujours à nous qu'on fait appel. En général, on n'est pas les plus mal lotis.
Comment va évoluer selon toi alors ce métier de key account manager dans quelques années?
Bien, tu vois, je trouve que de plus en plus, on est très bien outillé. On automatise plein de choses, la prospection, on a des CRM, on a des outils de téléphonie, etc. Et je pense que avec toute cette automatisation, on est plus efficace. Mais les gens, encore une fois, ont besoin d'avoir ce contact humain, selon moi, avoir cette personne qui s'occupe d'eux, qui connaît leur sujet, qui est expert. Et je pense qu'on a de beaux jours devant nous. Et très clairement, le focus sera sur, pour moi, des commerciaux qui vont se positionner un peu en tant qu'experts et qui auront une honnêteté intellectuelle et une empathie par rapport à leurs clients assez importante. C'est ce qui fera pour moi la différence, en fait.
Carrément, je suis 100% d'accord avec toi. Alors, j'hésite entre les deux dernières questions. Allez, je vais dire mon bonus tout de suite et puis après, je ferai la question rituelle. Donc, la question que je voulais absolument savoir, c'est est-ce que tu peux me raconter un des plus beaux hacks clients que vous avez fait chez Germinal?
Ouf, ouf, là tu poses une question qui amène à débat, Darina. Alors en fait, nous chez Germinal, on ne dit pas on fait du gros hacking, on dit qu'on fait du gros marketing, et on ne dit pas qu'on fait des hacks, mais plutôt des expérimentations, des tests. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si tu as pu le voir, mais le mot hack et le mot hacking, c'est très galvaudé, et en fait, ça revêt vachement cette dimension de. C'est la recette magique qui va fonctionner à tous les coups pour tous les clients dans tous les secteurs. Nous, on ne croit pas en ça. On pense qu'on va lancer des tests, des expérimentations qui vont marcher pour un client, pour un secteur à un moment très précis et que potentiellement tu ne pourras pas appliquer cette expérimentation, ce test à tout le monde. Donc, plus d'expérimentation. Et dans tous les cas, pour répondre à ta question, bah, nous, on travaille on adresse nos clients dans le B2B. Il y a des choses qui marchent bien dans le B2B, c'est des campagnes multi-points. Tu me parlais de mes fréquences de points de contact avec les clients tout à l'heure. Le multi-point, envoyer des mails, engager sur LinkedIn, pouvoir retoper tes clients également sur LinkedIn, potentiellement envoyer également du courrier papier, tu vois, et puis renvoyer un mail en disant « vous n'avez pas répondu à mon courrier papier ». Ça marche plutôt pas mal auprès des cibles B2B. Et tu vois, notamment à une époque où bah, on utilise encore une fois de plus en plus d'outils d'automatisation. Donc, les gens sont assez fans en fait de personnalisation. Et aujourd'hui, tu n'as plus personne en fait qui envoie des courriers papier. Donc, ça marque assez les esprits. Ça marche plutôt bien.
Raffiné, j'aurais dû te demander de venir au micro d'Amcamgram par courrier et après te dire sur LinkedIn, vous n'avez pas répondu à mon courrier. Ça aurait été excellent.
T'as pas eu besoin de ça, Darina. Moi, j'ai répondu oui tout de suite.
J'avoue. Trop chouette. Eh bien, écoute, la dernière question rituelle, donc tu la connais par cœur, c'est quel titre de livre, de film ou encore de chanson décrirait le mieux selon toi ton quotidien et pourquoi?
Bah écoute, mon quotidien chez Germinal, c'est de participer à une aventure entrepreneuriale avec des gens qui veulent changer la donne. Pour leurs clients, on parle de croissance des clients, donc de la prospérité. Nous aussi, on veut être heureux et on veut être prospère. Donc, je dirais à la recherche du bonheur, tu sais, le film avec Will Smith,
Yes.
où le mec, il est vraiment en bas, il galère et à la fin, il est super riche, il est trader. Et voilà, après, le bonheur, ça peut revêtir énormément de dimensions, mais ouais, à la recherche du bonheur.
Trop bien, bah, c'est un joli titre en tout cas pour terminer l'épisode en beauté.
Eh bien, écoute, ça a été un vrai plaisir pour moi, en tout cas, cet échange. Et encore une fois, merci pour l'invitation et et j'espère à très 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 vite.
Yes, salut, ciao.
Salut Marina, bye.